On va passer tout de suite à notre toute première table ronde. Donc, je vais demander aux gens qui vont parler avec nous de festival de nous rejoindre. Donc, Jean-Paul, Marianne, Julien, Eric et Vincent. Et vous pouvez venir vous installer ici autour de moi. Juste pour rappeler un peu rapidement le principe des trois tables rondes qu'on aura aujourd'hui, à peu près une bonne heure de discussion, nous, ici autour de la table ronde. Et après, on passe aussi la parole au public. Parce que, comme ça a été aussi rappelé par Solveig, l'idée, c'est pas, on va pas faire le tour de la question aujourd'hui, on va soulever des pistes, mais on initie des rencontres. Et donc, on sera intéressé des échanges qu'il y a entre vous. Vous le verrez, sur ces tables rondes, on est relativement nombreux, 5 personnes. Des gens qui auraient beaucoup à dire, avec qui on aurait pu parler bien plus longtemps. Mais l'idée, c'était aussi de vous montrer une diversité de points de vue. Et puis, si c'est frustrant, bah, tant mieux peut-être, parce que vous aurez envie d'en savoir plus et de discuter avec les uns et les autres dans les différents temps d'échange qu'on a aujourd'hui. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez découvrir, le Nord-Franche-Comté, en général, est extrêmement dynamique. Terre de créativité et de culture, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Juste avant qu'on commence, je voulais quand même dire qu'on a aujourd'hui un grand absent quand on travaille sur les alternatives et les marges dans le Nord-Franche-Comté. Il y a un acteur un peu incontournable qui s'appelle le Théâtre de l'Unité. Et le Théâtre de l'Unité, ils sont en pleine ruche en ce moment. Ils peuvent pas, c'est la restitution de leurs ateliers toute la semaine aujourd'hui. Donc, ils peuvent pas être là, Hervé de Lafond et Jacques Lifshin, qui auraient bien aimé, parce qu'ils s'approchent, ils auraient apporté un point de vue différent. Donc, voilà, juste pour dire qu'on pense à eux quand même. Mais ce sera l'occasion peut-être d'une autre journée. Alors, sur notre table ronde, donc cette première table ronde, elle s'appelle Les festivals, laboratoire de la transition écologique au niveau local. Parce qu'on pointe souvent, et à raison, il faut bien le dire, leur aspect très émetteur de carbone, notamment en raison du déplacement des publics, leur modèle économique, dont on sait qu'il est bientôt à bout de souffle. Mais cette table ronde, elle se proposait de renverser la perspective et d'essayer justement de se demander comment, alors ici on va parler plutôt de gros festivals de musique, bien sûr, comment ces festivals peuvent aussi être en fait des accélérateurs de la transition et de questionner en fait ce paradoxe, c'est-à-dire comment ces festivals ils développent eux aussi des façons de faire autrement pour coller justement à ces enjeux, notamment de transition écologique. Et on va donc s'interroger là pour voir comment ça se fait et jusqu'où ça peut aller. Donc, juste un petit mot très rapide sur nos invités, même si après, on parlera d'eux un peu plus en détail. Donc, je commence en face de moi. Vincent Rouir, qui est le directeur de la Maison de l'Environnement, qui se trouve sur le site du Malsaucy, le site qui accueille les Eurockéennes. À côté de lui, Éric Lacaza, qui est artiste sonore, qui nous parlera de son travail aussi après. Marianne Occard, qui est pour quelques semaines encore responsable RSE développement durable au festival Wheel of Green, qui se passe dans le bois de Vincennes. Julien Audemars, qui est chercheur au CNRS, notamment spécialisé sur les festivals. Et Jean-Paul Roland, à côté de moi, qui est le directeur des Eurockéennes. Alors, c'est vers vous que je vais me tourner en tout premier, Jean-Paul, pour commencer cette table ronde. Avant de revenir sur un certain nombre des actions que vous mettez en œuvre, revenir sur une chose que vous m'avez dite quand on s'est parlé, c'est que il y a un effet de loupe sur les festivals qui sont très scrutés, qui sont très pointés et à qui on demande d'être exemplaires au milieu d'un environnement qui, lui, l'est pas du tout, en fait, en matière notamment de transition écologique. Et donc, comment vous gérez ça? Cet effet de loupe et comment vous gérez, dans quel état d'esprit vous êtes pour justement, à la tête d'un grand festival comme les Eurockéennes, réussir à piloter en fait ce changement et gérer les questions environnementales.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Bon, c'est une vaste question quand même, hein. Peut-être quand vous parlez d'exemplarité, il faudrait quand même parler déjà du modèle. Moi, je vois deux modèles en fait d'un festival de notre ampleur. Il y a le modèle qui est souvent brandi et qui est communément diffusé par les outils de communication, c'est-à-dire un grand rassemblement transgénérationnel autour de la musique avec une communion et où les rapports, pour paraphraser un peu les sociologues qui ont travaillé là-dessus, mais un événement où les rapports sociaux sont d'autant plus facilités qu'ils sont courts, etc. Donc finalement, la vie est belle. Et puis il y a l'autre modèle qui est quand même le modèle d'une mini-société très codifiée, très encadrée, avec des espaces réservés, artistes, publics, mécènes, VIP, organisateurs, des gens qui ont, comme vous avez fait, des bracelets pour les identifier. Ces bracelets, ils ont des puces aussi pour savoir où est-ce qu'ils doivent passer, etc. Alors, on sait à peu près tout, sauf le moment où ils sortent, mais on sait à peu près comment ils peuvent sortir, parce que avec les puces, on sait combien de bêtes vertes ils ont pris et à quelle heure. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces deux modèles-là non pas se confrontent, mais en tout cas vivent ensemble. Et de ces deux modèles-là, on essaye, nous, organisateurs associatifs, bien entendu, de faire continuer à faire tourner la barque, effectivement, de moments qui nous semblent un peu précieux dans une société dont on peut se dire qu'elle est quand même un peu inquiète. Et donc ce rôle essentiel, à la fois d'amusement, mais aussi du devoir que l'on a sécuritaire, parce qu'il y a 35 000 personnes par jour qui vivent, qui dorment, etc., qui se rencontrent, et donc on doit le faire. Alors, autour de ça, on s'aperçoit effectivement que l'exemplarité, elle est peut-être pas compliquée, mais il y a effectivement, comme vous dites, un effet de loupe qui est dû aussi à la taille du festival, et c'est bien normal, aussi à l'origine de ce festival, c'est-à-dire le festival qui était, je le rappelle parce qu'il est présent, inventé par Christian Proust, qui était à l'époque président du conseil départemental, était aussi, bien entendu, un outil de communication. Et donc tous ces facteurs-là font que cet effet de loupe qui est donné sur une sorte de société un peu modèle, et à ce moment-là, je parlerai plus peut-être des services de l'État, qui voient aussi finalement quelque chose qui pourrait traduire du fait qu'une société pendant 4 jours n'est pas obligée de se taper sur la gueule, quoi, par exemple. Voilà. Et que des festivaliers puissent finalement converser librement avec des gendarmes qui les encadrent. L'exemple qu'on a vu était parlant notamment au moment des émeutes, du week-end des émeutes, puisque le Festival des Eurockéennes se passait pendant le week-end des émeutes il y a 2 ans. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une exemplarité et un modèle dont on voit qu'il a un effet de loupe, notamment, j'allais dire, sur les expérimentations qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que les festivals, Lovrine pourra en parler aussi, on est assaillis, mais d'autant mieux, par on va dire, par des gens qui inventent des choses autour du fait d'être beaucoup dans un endroit. Alors, ça va effectivement de ces gobelets-là que vous voyez, qui sont maintenant des choses usuelles, mais qu'à l'époque on ne voyait pas. Mais la première fois que je les ai vus, c'est dans des grands rassemblements, mais aussi toutes sortes de choses, toutes sortes d'applications, etc., etc. Et puis, pour en revenir à la question qui est plutôt la question écologique, bien entendu, et je vais essayer de faire court, ce festival est né finalement d'une volonté. Bien entendu, d'être dans un endroit bien précis, c'est-à-dire pas sur un parking, mais sur un isthme, quelque chose aussi d'assez sensible. Vincent Pich pourra mieux le détailler que moi, bien entendu. Et pour la petite histoire, qui beaucoup le connaissent, il avait été plutôt entendu qu'il soit un autre endroit, plutôt vers le ballon d'Alsace, mais les écologistes, et certainement à raison, ont tout de suite ont tout de suite poussé des cris en disant qu'il ne fallait pas être là-bas à cause de la reproduction, en tout cas d'un tétra qui aurait pu être troublé. Et donc, voilà. Donc la notion, j'allais dire, de protection environnementale, elle est chevillée quand même à l'histoire des Eurockéennes. Toute notre idée, bien entendu, c'est de ne pas tomber dans le greenwashing, c'est-à-dire de ne pas tomber là dans une sorte de communication. Donc nous, je pense qu'on a fait de la protection environnementale dès le début, parce que les gens revenaient juste après nous, et effectivement les traces étaient quand même visibles. Et comme vous l'avez dit, notre idée maintenant, c'est de segmenter en fait quelles sont les priorités. Et donc chaque année, sans trop rentrer dans le détail, mais nous avons une dizaine d'actions que l'on définit avec notre équipe technique, mais aussi avec des personnes qui nous aident extérieures, pour un regard extérieur, pour essayer, bien entendu, d'essayer d'avancer, en tout cas dans ce schéma-là. Voilà, je ne sais pas si c'était trop long, mais.
Non, c'est parfait, on pourra revenir après, on va se faire circuler la parole. Je rappelle quand même que le Festival des Eurockéennes est le premier festival de plein air à avoir reçu la certification ISO 20121, qui est une norme de développement durable. Donc voilà. Et je vais passer la parole à Marianne pour Wheel of Green, parce qu'à Wheel of Green, là où vous agissez comme laboratoire de la transition écologique, c'est que vous avez une action de sensibilisation extrêmement développée. Donc si tu peux nous en parler un peu.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup aussi de l'invitation. Oui, effectivement, nous on a toujours considéré, Formula Green a été créée en fait au départ, donc en 2011, pour sensibiliser les publics aux enjeux du développement durable. Et d'ailleurs, je dis les publics, mais enfin, c'est toutes ces parties prenantes, donc à la fois publics, artistes, bénévoles, intervenants, étudiants, puisqu'on a aussi des projets, enfin les programmes, on est dans les programmes pédagogiques de l'université, et voilà, enfin l'ensemble de ces parties prenantes. Et du coup, ça, c'est, je trouve que c'est intéressant dans la notion de laboratoire. Dès le départ, il y a eu des choix qui ont été faits sur le festival, comme par exemple de ne pas utiliser de diesel, mais de tout de suite prendre des générateurs à biocarburant, ensuite de faire des expérimentations sur du solaire, sur de l'hydrogène vert, sur des packs batteries, enfin voilà, différentes sources d'alimentation énergétique pour le festival. Il y a eu aussi des choix, puisqu'on est, alors Boulevrine se tient actuellement dans le bois de Vincennes, sur des terrains sportifs. À l'origine, il a été créé au parc de Bagatelle, donc plutôt côté bois de Boulogne. Et du coup, dès l'origine, comme les Eurocaennes, en fait, on a intégré aussi des process de travail respectueux de l'espace vert dans lequel le festival se déroulait. Par exemple, pas de circulation de véhicules motorisés sur des pelouses, ce genre de choses. Ce qui était en 2011 assez novateur et assez ce qui bousculait un peu les habitudes des équipes techniques, des prestataires, etc. Donc voilà, des choix comme ça de départ qui ont vraiment assis l'identité de laboratoire du festival. On a continué et on continue toujours au fil des années à essayer d'être ce laboratoire, par exemple, sur la vaisselle réutilisable, sur le fait de passer un festival 100% végétarien et de l'imposer, du coup, à la fois au public, mais aussi aux artistes, aux équipes. Et voilà, donc ça, c'est une grosse partie de notre action. Et en fait, le pendant, c'est effectivement toute cette démarche de sensibilisation qui, je trouve, est finalement même la plus forte dans cette dimension de laboratoire parce qu'elle permet de sensibiliser vraiment à grande échelle. Nous, on nous pose, et surtout à moi, toujours la question de oui, mais enfin, vous appelez We Love Green, vous êtes un festival engagé en matière d'écologie, mais vous attirez 35 à 40 000 personnes par jour pendant 3 jours. Enfin, où est la cohérence? Et en fait, la réponse, c'est vraiment cette dimension de sensibilisation. Il y a peu d'endroits où on arrive à sensibiliser autant de monde d'un seul coup aux enjeux du développement durable. Ça se fait trop peu, je trouve, à l'école, ça se fait trop peu dans les médias. Et un événement festif comme nos festivals, c'est des bons vecteurs en fait, de changement de pratique, enfin, déjà pour véhiculer des messages, faire évoluer des pratiques aussi. Encore une fois, quand on vient sur Willow Green, on est obligé de manger végétarien. Je prends cet exemple parce que c'est le plus parlant. On est obligé de manger végétarien et en fait, on se rend compte que c'est bon, que c'est bien cuisiné, que c'est des produits qui sont locaux, etc. Et du coup, ça débloque peut-être un petit truc dans les esprits qui pourront plus facilement manger végétarien le reste de l'année. De la même manière, on utilise la vaisselle réutilisable, on aura peut-être moins de freins à le faire au long de l'année, on ira apporter son contenant pour aller chercher à manger, ce genre de choses. Moi, je trouve qu'un événement tel qu'un festival a vraiment un rôle à jouer en la matière. Donc, c'est pour ça qu'au-delà aussi de cet aspect très pratique, des exemples que je viens de vous citer, on a aussi effectivement une action de sensibilisation avec une scène de conférence qui a pris beaucoup d'ampleur au fil des années, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, qui s'appelle le Think Tank, où au départ, c'était vraiment un petit tipi bien plus petit que ce chapiteau, qui pouvait accueillir 20-30 personnes. Voilà, on parlait développement durable, etc. Et maintenant, c'est une vraie scène en fait, du festival qui peut accueillir 1200, 1300 personnes. Et encore, il y a souvent du monde qui se presse autour debout. Et du coup, on a des personnalités. Alors, on essaie d'avoir des personnalités assez identifiées quand même, mais de mixer aussi avec des chercheurs, des scientifiques, des géologues, pour avoir aussi quand même une dimension assez pointue et poussée sur les sujets. Enfin voilà, on a autant des Camille Etienne, Hugo Clément que des Valérie Masson-Delmotte, qui est quand même bien identifiée maintenant, mais des Aurore Stéphan, beaucoup d'acteurs différents qui, interviennent pendant 45 minutes, une heure, pour sensibiliser les publics. On a aussi ce qu'on appelle, nous, les call to action, donc les appels à l'action qu'on organise, en fait, sur les grandes scènes du festival, juste avant le début des concerts des têtes d'affiche, où on a une ONG ou un militant, une militante, qui viennent prendre la parole devant, 15 000 personnes qui sont rassemblées, qui sont impatientes de découvrir, de voir le set de l'artiste qu'ils sont venus voir. Et qui, entendre un message de 5 à 10 minutes de sensibilisation. Ça peut être sur le mal logement, ça peut être sur les océans, enfin voilà, plein de thématiques différentes qu'on essaie de renouveler chaque année. Et voilà, et on se dit que bah, c'est un bon moment pour capter l'attention et du coup bah, semer une petite graine en fait dans les esprits des festivalières et festivaliers. Donc voilà, je trouve que la dimension de laboratoire, elle est surtout là-dessus là, en fait.
Il y en a une autre dont on parlera après sur la biodiversité, mais dans un second temps. Je vais passer la parole à Vincent maintenant sur le site du Malsocie. Alors Vincent, il faut nous indiquer, il y a les photos qui sont là pour nous dire comment la présence d'un festival comme les Eurockéennes sur le site du Malsocie pour une maison de l'environnement a pu en fait créer aussi des nouvelles dynamiques pour vous. Qu'est-ce que ça permet? Quelles sont aussi peut-être les limites?
Oui, si vous voyez des photos comme ça où on voit le site en présence du festival et le site sans le festival, vous aurez un peu une illustration de ce que Jean-Paul disait en introduction, en indiquant que la question de la préservation de l'environnement était chevillée au corps de l'histoire du festival. Et c'est dans cette même histoire que la Maison de l'Environnement s'inscrit. C'est aussi une initiative du département qui, quelque part, est apparue au moment où, quelques années après, que le festival s'installe sur le site du Malsocie avec ce que ça pouvait générer comme émotion de la part d'un public qui était attaché à la dimension naturelle du site. Et ça vous permet aussi de comprendre un peu mon point de vue, enfin de quel point de vue je parle, qui est immergé. C'est-à-dire que moi, j'y travaille depuis 20 ans et la Maison de l'Environnement y existe depuis 30 ans. Donc, elle a toujours été, comment dire, témoin de cette migration de début d'été avec les 30-35 000 festivaliers qui débarquent. C'est notre matériau de départ, en fait. L'existence de ce festival sur un site naturel qu'on connaît bien, par ailleurs, pour son environnement, pour son intérêt écologique. En fait, c'est une mosaïque de milieux qui est très importante à l'échelle européenne, dans un maillage européen comme ça de milieux humides. C'est une étape migratoire pour des oiseaux cette fois-ci. C'est des habitats pour des batraciens, enfin, une grande diversité des insectes, des champignons. On en recevait récemment un colloque, un demi-colloque qui venait chercher dans ces espaces-là des espèces qui sont considérées comme très rares en France. Donc voilà, c'est un site naturel qui est intéressant dans sa dimension écologique et qui accueille un festival. Alors, de mon point de vue, cette présence-là qui peut paraître un peu contradictoire, c'est-à-dire contradictoire avec les missions confiées à une maison de l'environnement, voilà, en disant à l'année, on va faire passer des messages, des co-gestes, etc. Et 3 jours ou 4 jours dans l'année, c'est la liberté totale en matière de comportement individuel. Comment est-ce que vous gérez cette contradiction? Et donc, on a réfléchi pendant un certain temps. Il faut avouer que la Maison de l'Environnement était fermée plusieurs années au départ, avant nos arrivées concomitantes, on va dire. Et oui, voilà. Mais le choix avait été de se faire tout petit pendant le festival, de laisser passer et puis de continuer les missions avant comme elles existent, enfin après comme elles existent avant, en oubliant l'épisode du festival. Et puis là, effectivement, la présence comme ça de 30 000 festivaliers, l'installation d'une petite ville, on va dire, sur un site qui a vocation, qui est attractif pour sa naturalité, ça nous a posé question et on a essayé de trouver, ça nous a provoqué quelque part. Et on a essayé de trouver, nous, comme organe de sensibilisation, un moyen de s'y inscrire de façon intelligente pour pouvoir contribuer à la réussite du festival, mais en mettant le maximum de moyens dont on pouvait disposer pour que l'impact du festival sur l'environnement soit limité. Et donc, on a développé des opérations avec une dimension de logistique très importante dès le départ, avec l'idée que, effectivement, sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de public qui est disponible, c'est une fenêtre ouverte, une occasion de communiquer, de passer des messages, mais aussi l'expérience que vivent ces festivaliers, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est une manière de s'approprier des questions, d'intérioriser des questions, et puis de les traduire en vie quotidienne, on peut dire. Et en même temps, eh ben, prendre à bras le corps le problème de l'organisation, parce qu'au quotidien, on est en contact avec les techniciens, avec les équipes qui organisent, on voit bien la difficulté que c'est d'organiser une manifestation à cette échelle-là. Et donc, on est aussi dans une posture qui est, on va dire, fraternelle, en fait. On va essayer d'aider au maximum en ayant cette préoccupation de l'impact environnemental que les organisateurs peuvent, à un moment donné, perdre de vue parce que ce qui est prioritaire, c'est la réussite artistique, c'est de la sécurité, c'est le bon déroulement de l'événement, et que ces questions, évidemment, de moins en moins au fur du temps, parce qu'elles deviennent primordiales, mais au moins les premières années, au début des années 2000, quand on a choisi d'intervenir, n'étaient pas centrales pour l'organisation du festival. Donc au moins, nous, en tant que maison de l'environnement, on était là avec cette idée-là en tête, à 100%, on va dire, et on pouvait se glisser dans l'organisation et apporter une contribution très pratique. Et ça s'est traduit. Là, on voit des images. Alors, il n'y a pas tout l'historique, mais je crois que la première intervention, c'était sur la prévention des risques auditifs, donc en 2007, peut-être. Test audiométrique, distribution de bouchons d'oreilles, etc. Après, on s'est intéressé à la mise en place du tri sélectif, parce qu'on l'oublie, à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, c'était la mise en place. On demandait aux festivaliers de trier leurs déchets pour la première fois, avec exposition des mobiliers de poubelles un peu ludiques qui permettaient de trier en jouant, on va dire. Après, on s'est intéressé à la question du gaspillage alimentaire. Donc, c'est une grosse question à l'échelle d'un festival parce que les standiers ne peuvent pas nécessairement bien anticiper la quantité de marchandises qu'ils vont vendre. Donc, il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Donc, on a initié des opérations avec à la fois l'idée de pouvoir valoriser les biodéchets avec une collecte sélective, donc biométhanisation, et puis transformation en énergie. Et ça, concrètement, ça signifie des pales box, des petits seaux à compost qu'on donne au stand alimentaire en leur expliquant où il faut aller, etc. Ça veut dire une présence sur les catering pour accompagner le moment où on rend son assiette, son plateau, en disant voilà, dans telle poubelle les biodéchets, dans telle poubelle ce qui sera incinéré. Donc c'est un travail vraiment de terrain, opérationnel et en accompagnement des équipes logistiques du festival avec notre manière de faire, et puis les petits frottements liés au fait que on est une entité extérieure qui a toujours un petit peu de travail de connaissances mutuelles qui est venu au fil des années. Donc ça a été ça, la méthanisation, les biodéchets, des tentatives pour réutiliser le pain perdu. Et donc faire avec les festivaliers des petites préparations à partir de ce pain-là. On a travaillé sur, du moins jusqu'à l'année dernière, on a beaucoup misé puisque la question des déchets proprement dit est pas en passe d'être résolue. Il y a toujours des déchets à l'échelle d'une organisation comme ça, mais il y a une réduction énorme de la quantité des déchets qui est liée aussi aux choix, aux options qu'a fait le festival et à la réglementation nationale d'interdiction du plastique. Ça a complètement révolutionné la manière de gérer les déchets qui sont aussi mieux triés, mieux valorisés. Il reste la question des micro-déchets. Donc là, vous ne verrez pas d'image, mais la question des micro-déchets, donc c'est ces tout petits déchets de moins de 5 cm, et notamment parmi ces déchets, les mégots de cigarettes, qui est un peu le déchet majoritaire, et puis une grande plaie, parce que c'est une source de pollution du milieu naturel qui est pas négligeable. Et donc, ça a été la pose de centaines de cendriers sur place, dans les lieux où les festivals y attendent, devant les toilettes, devant les zones de restauration, etc. La distribution de petits cendriers de poche, Bon, maintenant, c'est des choses qui sont assez familières dans les festivals, mais à l'époque, on était, je crois, les premiers en France à développer une opération comme ça en coûts humains, on va dire, avant qu'il y ait des organismes qui soient rodés pour pouvoir développer ces solutions-là. Voilà, donc c'est en fait un travail en coopération avec les équipes techniques pour faire en sorte que le festival roule, mais limite son impact sur l'environnement. La question alimentaire aussi beaucoup. Donc on a fait ce qui est maintenant un... Parce que l'objectif, c'est qu'on... Nous, on dispose de peu de moyens pour faire, même si on a une place centrale et qu'on a une énergie débordante. Mais l'idée, c'est qu'on puisse expérimenter des modes d'action et qu'après, le festival s'en saisisse et que ça rentre dans l'organisation générale. C'est ce qui se passe pour les biodéchets maintenant. Et donc, c'est ce qui va se passer, je pense, pour les micro-déchets à l'avenir. C'est ce qui est en passe de se passer. Voilà, il y a des expérimentations qui ne fonctionnent pas, comme par exemple les toilettes sèches qu'on avait testées, soumises un peu à l'avis des festivaliers en termes d'usagers qui étaient plébiscités, mais qui ne correspondent pas à l'infrastructure technique du festival. Donc ça, c'est une solution qui n'a pas été reprise, qui n'a pas germé, on va dire. Et il y en a d'autres qui fonctionnent bien, comme les biodéchets, comme je pense, nos mégots, c'est aussi amené à rester de manière permanente. Voilà. Donc une démarche pragmatique et une sensibilisation par l'action. Je pense, mais peut-être on pourra y revenir après, il y a une dimension, à mon avis, qui a un potentiel qu'on n'a pas encore exploité. C'est que, véritablement, dans la motivation des festivaliers à venir sur le site du Mal Soucy pour les Eurockéennes, il y a cette idée de vivre quelque part, un peu comme ça. Voilà. Cette image-là, elle est très caractéristique. Une expérience de nature. Parce que le site est très argileux. Dès qu'il pleut, c'est des torrents de boue, comme ça. Et il y a ce rituel, en fait, presque initiatique, de jouer avec la boue et de passer au-delà de la crainte qu'on peut avoir au départ. Ça, c'est une expérience de nature. C'est des choses que nous, on pourrait travailler en tant que maison de l'environnement avec des techniques d'éducation à l'environnement. C'est une manière d'être en relation avec la nature. Ça, c'est une autre expérience qu'on a fait, micro-expérience, mais qui a été... On va y revenir. Ben, ce sera une bonne occasion parce que je pense que c'est un terrain d'expérimentation qui est encore à découvrir. Pardon d'avoir été un peu long.
On va reparler biodiversité après, mais on va déjà finir ce premier tour de table. Je vais te donner la parole, Julien, pour nous donner un petit peu un cadre un peu plus général. Comment les festivals en général, finalement, se prennent en charge ces questions d'écologie, comment ces normes sont construites déjà. Donc voilà, un paysage un peu plus global peut-être.
Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci, je vous remercie à mon tour de l'invitation. Alors avant peut-être de répondre à la question, je vais dire un peu d'où je parle et ce que j'ai fait, puisque depuis quelques années, avec une équipe composée d'Emmanuel Négrier, qui est le directeur du laboratoire de recherche dans lequel je travaille, qui s'appelle le Centre d'études politiques et sociales, qui se trouve à l'Université de Montpellier. Donc, université où je suis maître de conférence, également Aurélien Jacouane, qui est maître de conférence à l'Université de Nanterre, et puis Stéphane Laurent, qui interviendra cet après-midi, et qui, lui, travaille à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça fait des années qu'on mène des enquêtes sur les acteurs du secteur culturel et les festivals en particulier. Alors, en ce moment, je mène deux projets de recherche, l'un qui porte sur la contribution des festivals aux dynamiques territoriales, et l'autre qui porte sur la mise en œuvre de normes d'éco-conditionnalité. Alors les normes d'éco-conditionnalité en matière de culture, hein, c'est un jargon qui veut dire que désormais les subventions publiques allouées aux acteurs culturels sont conditionnées par le respect de chartes, de normes, de feuilles de route, peu importe le nom, hein, de sobriété environnementale. Donc, je travaille là-dessus, et en particulier sur deux régions, hein, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Mais au-delà de ça, on a mené ces dernières années deux grandes enquêtes sur les festivals, donc l'une en 2020 et l'autre un peu plus récemment, en 2023. Deux études au sein desquelles on a interrogé justement ce que faisaient les festivals en matière de sobriété environnementale, quelles actions environnementales les festivals pouvaient mettre en œuvre. Alors, avant de vous donner quelques éléments de réponse, quelques résultats de ces enquêtes, faut rappeler que cette question des normes environnementales pour le milieu festivalier, c'est une question qui est apparue finalement assez récemment, mais dont les pouvoirs publics, à différentes échelles, se sont emparés. Alors, on pourrait citer, par exemple, au niveau de l'État, la charte pour le développement durable des festivals, qui avait été adoptée après les États généraux des festivals qui s'étaient tenus à Toulouse en 2021. Et puis, il y a également différentes initiatives régionales très hétéroclites, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, c'est un sujet très, très prégnant auquel les festivals sont directement soumis. Et alors, ce que nous avons observé dans la dernière enquête qu'on a menée, donc, qui était une enquête qui concernait un peu plus de 1200 festivals représentatifs du milieu festivalier français, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait interrogés sur 18 actions environnementales qu'ils pouvaient potentiellement mettre en œuvre. Alors, ce qu'on avait fait, c'est pas simplement leur demander s'ils mettaient en œuvre ou non. On avait instauré un nuancier qui consistait à distinguer entre les actions, d'une part, qui avaient été mises en œuvre avant l'enquête, donc avant 2022, les actions qui avaient été mises en œuvre au moment de l'enquête, en 2022, celles qui étaient envisagées, et puis les actions qui n'étaient pas du tout envisagées. Bon. Alors, les résultats de cette enquête montrent plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut regrouper ces 18 actions en 4 groupes. Alors, le premier groupe, c'est le groupe des actions qui sont les plus communément mises en œuvre par plus des 2/3 des festivals interrogés, qui sont des actions, alors, parmi celles dont on a parlé depuis tout à l'heure, les actions en particulier en matière de tri des déchets. Des actions en termes de mutualisation des ressources, ça c'est quelque chose aussi très important pour le milieu festivalier. Et y a cette idée qui revient beaucoup, que la sobriété environnementale est aussi un facteur de coopération avec les autres acteurs du milieu, mais également avec d'autres acteurs, et en particulier des acteurs associatifs qui interviennent sur ces questions-là, j'en reparlerai. Donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe des actions finalement qui sont également mises en œuvre de manière assez majoritaire par les festivals, mais qui sont avant tout envisagées. C'était des actions qui n'étaient pas encore totalement mises en œuvre. Alors, c'était des actions qui concernaient à peu près entre la moitié et 60% des festivals. Alors, il s'agissait de différents types d'actions, notamment l'adoption d'une alimentation végétale, végétarienne, des questions de préservation des sites dans lesquels les festivals interviennent, et donc ce type d'action-là. Ensuite, on avait un troisième groupe d'actions, donc un peu moins mises en œuvre, et là, on retrouve des actions déjà un peu plus structurelles, comme par exemple les questions de la gestion des transports, ou encore la question de la sensibilisation des publics. Toutes les actions dont on vient de parler depuis tout à l'heure en matière de sensibilisation des publics sont loin d'être des actions majoritaires dans le milieu festivalier. Donc, c'est quelque chose à souligner. Et puis enfin, une dernière catégorie d'actions qui, elles, étaient les actions les plus minoritaires. Et parmi ces actions-là, on retrouvait des questions assez bourdes, par exemple de gestion des ressources en eau, ou encore la réalisation de bilans par les festivals eux-mêmes, de bilans de sobriété énergétique et environnementale. Alors, à partir de ce tableau-là, on peut faire plusieurs conclusions, plusieurs interprétations. La première chose, c'est que, en réalité, le milieu festivalier est un milieu qui est assez vertueux en matière environnementale. Parmi les 18 actions qu'on avait interrogées, il n'y en avait que 4 qui n'étaient même pas envisagées par la majorité des événements. Donc, c'est quelque chose à souligner. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on comparait les données de l'enquête 2023 avec les données de l'enquête 2020, on constatait une progression extraordinaire en matière d'actions mises en œuvre. Je vous donne un exemple, la question du tri des déchets. En 2020, quand on avait interrogé les festivals, il y en avait 13% qui avaient mis en œuvre ce type d'action. En 2023, c'était 80%. Donc, il y avait une progression tout à fait notable. Troisième chose à remarquer, et vous avez dû le percevoir par rapport à ce que j'ai dit, c'est que finalement, les actions sans doute les plus lourdes et les plus impactantes en matière environnementale sont celles
qui sont peut-être les moins mises en œuvre. Bon. Et là, on rencontre un problème dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de la contrainte que représente la sobriété environnementale pour des événements comme les festivals. Je prendrai un exemple, la question de l'aménagement des transports, alors transport des artistes, mais également le transport des publics. Et là, on touche à quelque chose qui est fondamental pour le modèle économique de beaucoup de festivals. Donc là, il y a une tension, une ligne de tension potentielle que l'on voit émerger. Le quatrième résultat de tout cela, c'est que, et là c'est un trait finalement assez commun au milieu festivalier, depuis tout à l'heure je parle de milieu et pas de secteur, on a toujours du mal dans notre équipe à parler de secteur festivalier tant qu'on parle d'une nébuleuse d'acteurs très, très hétérogène, hein, avec des modèles économiques, des modèles de programmation artistique très, très divers. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, il y a aussi une diversité très forte dans la façon dont les festivals mettent en œuvre ces actions environnementales. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait essentiellement deux facteurs, deux critères qui apparaissaient comme fondamentaux pour comprendre quel type de festival mettait plus d'actions environnementales en œuvre. Le premier critère, c'est un critère budgétaire. Globalement, les plus gros budgets sont ceux qui mettent le plus en œuvre d'actions environnementales. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ce résultat. Une première façon, c'est une façon plutôt optimiste qui consiste à dire que finalement, c'est plutôt une bonne chose, puisque les grosses machines qui sont celles dont l'impact environnemental est plus important sont également celles qui sont les plus vertueuses en matière environnementale. Donc finalement, on a une certaine forme de compensation, de transformation, de transition qui va un peu dans le bon sens. Mais en même temps, il y a deux limites à ce constat-là. La première limite, c'est que depuis tout à l'heure, ce dont je parle, ce sont des résultats qui sont basés sur du déclaratif. On demande aux festivals ce qu'ils font en matière environnementale, mais on ne mesure pas concrètement quel est l'impact de ces mesures. Et ça, c'est un problème alors, qui ne concerne pas simplement l'enquête que j'ai menée, c'est un problème qui concerne l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions de transition, et en particulier les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, à l'heure actuelle, la plupart, se fondent sur des dispositifs qui sont basés, eux aussi, sur des déclaratifs, et pas sur une mesure directe, concrète, des impacts environnementaux. Ça reste une question tout de même importante. La deuxième chose, c'est que derrière ce résultat, cette idée du poids du budget dans la mise en œuvre de ces normes environnementales, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi tout simplement comme finalement le poids de la nécessité. Si les petits festivals finalement mettent moins en œuvre d'actions en matière environnementale, c'est d'une part parce qu'ils en ont moins les moyens, mais aussi tout simplement parce que leur impact environnemental est lui-même moins important. Et là, on tombe sur quelque chose de très complexe, et en particulier pour les pouvoirs publics, qui est de gérer ces hétérogénéités relatives à cette question de l'impact environnemental. Le deuxième critère qui est important à prendre en compte pour comprendre la mise en œuvre de ces mesures, c'est le critère territorial. Ce dont on s'est aperçu, c'est que les festivals implantés en milieu ruraux, qu'ils soient gros ou petits d'ailleurs, et les deux critères se cumulent pour comprendre la mise en œuvre des normes, plutôt la mise en œuvre des actions environnementales, les festivals implantés dans ces milieux ruraux sont les plus vertueux en matière environnementale. Alors, là encore, peut-être on peut y voir le poids de la nécessité. Un festival qui intervient en milieu très urbain, parce qu'il évolue dans un écosystème complètement différent, a un autre rapport, évidemment, à ces questions-là. Mais on peut aussi comprendre ce résultat sous un angle un peu différent, et en particulier dans la mesure où, alors, d'une part, les festivals implantés en milieu ruraux, dans leur immense majorité, sont des festivals qui sont de petite taille, associatifs, avec des structures assez flexibles qui permettent justement énormément d'innovation, et y compris en matière environnementale, mais également parce que ces festivals implantés en milieu ruraux, et ça on s'en est aperçu dans l'enquête sur la contribution des festivals aux dynamiques territoriales, ce sont des opérateurs finalement qui font souvent autre chose que de la culture. Parce qu'ils évoluent non seulement dans des milieux où l'offre culturelle est plutôt éparse ou assez rare, mais aussi dans des milieux finalement où on a besoin d'opérateurs capables d'une certaine forme de transversalité. On a besoin d'opérateurs capables d'œuvrer en matière d'attractivité territoriale, mais également d'opérateurs capables d'œuvrer en matière de revitalisation du territoire, du lien social, en matière d'information des populations. Et cette caractéristique-là est, à mon avis, hyper importante, hein, pour comprendre aussi ce que font ces festivals implantés dans les milieux ruraux en matière de sobriété environnementale.
Moment, on va finir ce premier tour de table. Alors, le temps passe déjà très très vite, mais on va faire un petit pas de côté avec Eric Lacasa, puisque vous êtes artiste et vous avez, enfin, parce qu'il va falloir qu'on explique pourquoi vous avez un lien finalement avec les Eurockéennes. Vous avez répondu à une commande de l'espace Gantner, qui est un espace numérique situé ici dans le territoire de Belfort à Bourogne, qui malheureusement est très menacé à l'heure actuelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Et vous avez été séduit tout d'abord par ce terrain du Malsaucy. Alors, vous allez nous raconter finalement un peu ça. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comment vous avez pu travailler à partir de ce terrain du Malsaucy et donc le lien qu'on peut faire avec les Eurockéennes.
Oui, enfin, dans cette discussion, effectivement, moi je suis un peu à part. Je ne suis pas directement impliqué sur la question du festival. Je me trouve un peu. Dans un frottement entre d'un côté un terrain qu'on me présente et qui n'est pas au départ le terrain des Eurockéennes, mais qui est le site des Malsaucy dans lequel on me demande d'intervenir. Et en visitant le site du Malsaucy, j'ai trouvé que le terrain qu'on ne me présentait pas m'intéressait particulièrement parce qu'il avait une qualité qui m'intéressait, que je ne pourrais pas expliquer, mais en tout cas, il avait une qualité que tout le reste du site n'avait pas. Donc, il avait tout de suite une particularité qui m'intéressait. Il s'affirmait par le défaut qu'il affirmait par rapport aux autres. C'est-à-dire, il n'avait pas de qualité. C'était une butte avec... il était juste hercé. Au moment où j'arrive au mois d'octobre, on m'invite à visiter le site pour essayer de voir si je trouvais un lieu. Tout le monde s'attendait à ce que j'aille vers le refuge qui est au bout du Malsaucy, je pense, pour faire un dispositif autour de l'écoute du refuge LPO plutôt. Mais en fait, c'est ce terrain qui m'intéresse parce qu'il a une nudité, il a une propriété qui m'intéresse. Et surtout, c'est un terrain à bâtir, quoi, d'un point de vue, même à tout, de plein de points de vue. Et à peine je touche la terre qu'on me dit « Ah, c'est le terrain des Eurockéennes ». Mais à peine j'ai la main dans la terre que déjà, il y a du plastique qui me remonte dans la main. Et je commence à regarder et je trouve ça beau. Mais je ne pourrais pas dire pourquoi, parce qu'il est en contraste total avec ce qu'il y a tout autour. C'est boisé, les deux étangs sont magnifiques. C'est très romantique, mais ce terrain, il n'a rien de romantique. Donc je me dis, si je fais quelque chose, je fais là. Je ne sais pas quoi. Et j'ai mis un certain temps et je me suis dit qu'il fallait prendre de la distance vis-à-vis des Eurockéennes, c'est-à-dire de ne pas dire « je ne suis pas là pour mesurer ni faire une enquête sur les Eurockéennes, je n'ai pas cette prétention », même si le son, comme c'est la base de mon travail, aurait pu donner lieu effectivement à une enquête de ce type. Et je me suis dit « j'ai toujours voulu faire ça, pour une fois qu'on me laisse un terrain, je vais faire de l'archéologie ». C'est un bon moyen de savoir comment le sol se souvient, parce que le sol est marqué de toute notre comment dire, histoire et de la longue aussi. Avant qu'on arrive, nous, il est marqué par tout ce qu'a été la Terre. Donc je me suis dit, peut-être que c'est un bon moyen de partir. Et à partir de là, j'ai fait un travail sur donc une archéologie du sol, mais des Eurockéennes, effectivement, puisque ça s'est concentré sur le seul espace des Eurockéennes. Ça permettait effectivement de circonscrire ce terrain parce qu'encore une fois, c'est effectivement, ça me permettait de circonscrire un terrain parce que je travaille sur plutôt des enquêtes de terrain, on peut le dire. Et donc, à partir de là, j'ai construit toute cette approche jusqu'à m'intéresser à effectivement de quoi était fait ce terrain. Et c'est passionnant parce que j'ai rencontré des botanistes, des gens qui étaient en charge de l'aménagement, enfin, toutes sortes de gens, jusqu'à arriver, puisque comme je suis parti 6 mois avant que les Eurockéennes interviennent, donc j'ai vu arriver les Eurockéennes, donc j'ai vu changer le sol, et puis je suis arrivé jusqu'aux Eurockéennes, pardon. Et j'ai compris en fait ce que c'était vraiment, parce que on montrait des photos. Moi, j'étais jamais venu, donc c'était bien. En fait, j'avais une distance qui était suffisante pour me permettre de me dire, je fais ce que je veux, en fait. Et donc, j'ai pu faire ce que je voulais. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait, donc, c'était toujours être concentré sur le sol et m'intéresser donc à la vibration, par exemple. Comment le sol va transmettre la vibration au moment où il y a les Eurockéennes ou avant, comment le sol digère ou non tout ce qu'il reçoit. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos aussi, j'en ai profité. Et ça m'a permis d'arriver à un projet autour d'une écoute sur ce terrain qui laisse transparaître en fait tout ce que j'ai rencontré. Donc, ça veut dire la mémoire, une certaine mémoire. Et comme l'archéologie, ça n'est que ça. D'ailleurs, le plus grand archéologue, on dit, c'était Freud, puisque c'était lui qui avait la plus grande collection de livres d'archéologie. Et c'est vrai que ça... j'ai rencontré l'un des archéologues que j'aime beaucoup, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Laurent Olivier, qui s'appelle Le sombre abîme du temps, qui est justement sur cette dimension du temps, de quoi il est fait. Et je pense que en partant du sol, ça m'a permis de comprendre l'état dans lequel le sol était et surtout l'état dans lequel la société, d'une certaine manière, était. Comment on en était arrivé là ? Parce que c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est comment le sol va raconter, si on fait l'archéologie de ce sol, admettons, dans 100 ans, qu'est-ce que ces 30 ans de je prends les Eurockéennes comme un épiphénomène, parce qu'il n'y a pas que les Eurockéennes dans ce sol-là, mais il y a de plus en plus, moi ce que j'ai vu, il y a de plus en plus les Eurockéennes. Et ça, c'est intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait raconter ? Alors, je n'ai pas la réponse, parce que je suis pas, j'ai pas analysé ça de façon scientifique. Mais en tout cas, ce que j'ai pu traverser au cours de cette année où j'ai suivi l'évolution donc des Eurockéennes durant avant et pendant et après. Et en fait, j'ai surtout compris après, c'est-à-dire cette remise en état du sol. Et ça, c'est aussi passionnant que de le voir se disparaître sous les Eurockéennes, en fait, d'une certaine manière. Et plus personne ne s'occupe du sol jusqu'au moment où il pleut. Là, effectivement. Alors moi, j'ai eu la chance d'être dans une édition extrêmement sèche. On m'a dit prépare les bottes. Donc j'avais amené les bottes. Hein. Et en fait, il a jamais fait aussi chaud. Moi, j'ai eu très chaud et donc j'ai pas mis les bottes. Mais par contre, on était dans la poussière et j'ai adoré. Enfin, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des événements, en fait, la poussière s'élevait des festivaliers au-dessus. Ça formait un nuage. Et ça, j'aurais voulu le filmer, mais En tout cas, le sol était là et tout d'un coup, le sol était en nuage. Et là, je me suis dit, c'est une belle image de là où on en est, c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que le sol devienne de la poudre, plus personne ne fasse attention, qu'il soit au-dessus des festivaliers, c'était une belle image pour moi. Et puis après, je suis resté, une fois que le sol se redépose, que les petites mains, ça j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les déchets. Et c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on voit, quand le festival s'arrête, on voit ce qui reste. Et là, j'ai pris beaucoup de photos parce que ça m'intéresse. On voit tout ce que la société de consommation nous donne à consommer de façon délicate. Je sais pas, ça devient... Même moi, je me suis vraiment... Il y a eu un avant et un après Eurockéennes pour moi. Hein, comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à cette société dans laquelle l'usage unique est devenu la règle, quoi, que tout le monde veut sa petite cuillère. Et du coup, personne ne réfléchit à l'impact que ça a. Et en suivant l'après-Eurockéenne, moi, j'ai découvert beaucoup de choses, en fait, juste par le sol. En suivant les gens, les petites mains qu'on ne voit pas hein, dans les Eurockéennes, puisqu'ils sont rarement là, ils sont là avant, après, tous ces gens qui viennent ramasser les objets, on apprend beaucoup de choses, vraiment... Et donc, j'ai suivi, c'est très instructif. Et je pense qu'on devrait faire pour les festivaliers, on devrait faire des stages pour aller voir les déchets. Parce que peut-être, ça serait plus instructif que de vendre des gobelets en plastique ou de les laisser
Enfin, moi, je j'ai pas de conseils, hein, mais je pense que les déchets, j'ai toujours appris beaucoup de choses. Moi, j'ai visité beaucoup d'usines. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Et quand moi, j'étais très impressionné, mais c'est vrai que là, mais je pense pas qu'on puisse parler d'un festival depuis ce problème des déchets, parce que c'est un problème beaucoup plus grand que ça. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de sortir de cette temporalité du festival. Parce qu'on parle beaucoup du festival comme quelque chose de nécessaire, mais c'est 4 jours par an. Enfin, je ne pense pas qu'on construise un quotidien avec 4 jours par an, même si on peut effectivement composer avec ça dans l'année. Je pense que effectivement, c'est cette temporalité qui... L'idée qu'on puisse organiser le temps d'une société avec 4 jours. Je ne sais pas si c'est... Moi, je pose des questions. Hein, je pas... En tout cas, c'est toutes ces temporalités qui sont assez courtes aujourd'hui, et de plus en plus courtes même, on a l'impression. Je ne sais pas si c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Par contre, ce que le sol nous dit, moi, j'ai beaucoup plus appris. Donc, voilà, moi, je suis à l'interface, à ce frottement, où je vois une société, une micro-société, parce que c'est 30 000 personnes jour, où on installe en fait plutôt... des stands pour manger et puis pour boire, et puis des concerts grandioses, que autre chose qui fasse résonance avec la société. Il s'agit effectivement, comme vous le disiez, d'amusement. On est là pour s'amuser, l'espace d'un instant, mais cet espace d'un instant, c'est comme une bulle qui dure depuis un certain temps maintenant et qui aujourd'hui, pour moi, devient extrêmement... problématique, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut encore faire la fête de cette manière-là pendant 4 jours alors que le monde est en train de collapser. Enfin, il y a un truc où est-ce qu'on a encore les moyens de raisonner encore sous cet angle-là? Est-ce qu'on peut encore faire ça? Est-ce que la culture, est-ce que la musique peut vivre autrement que comme ça? Enfin, moi, je suis à une interface, hein, je pose des questions, mais en tout cas, c'est ça, moi, les grandes questions qui me sont posées, c'est-à-dire, quand on change d'échelle, est-ce que l'idée de faire la fête pendant 4 jours, ça va arranger la chose? Enfin, est-ce que ça va nous faire passer le temps? Est-ce que ça va construire une société de demain? Est-ce qu'on a vraiment encore les moyens de ça, quoi?
Alors, on pourrait presque s'arrêter sur ces questionnements. Je vais juste vous redonner la parole à chacun, mais 2 minutes pour qu'on ait le temps d'échanger. Je vais revenir sur une chose que vous avez dite en parlant de bulle. Mais le festival, c'est une bulle, mais qui débouche aussi sur quelque chose d'autre. Au-delà des 4 jours, on va parler très brièvement, par exemple, de biodiversité. Marianne, tu peux peut-être nous dire, rapidement, j'en suis désolée, à Wheel of Green, vous avez été attaquée. Parce que le festival se tient en juin et des défenseurs, notamment des oiseaux, ont dit « bon, il y a un problème, c'est le moment de la nidification ». Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez fait ça, en fait, une force pour finalement réussir à faire avancer, quelque part, la recherche sur la biodiversité dans le bois de Vincennes ?
Ouais, je ne sais pas si on en a fait une force, mais effectivement, on voit, effectivement, il y a forcément un impact des grands rassemblements comme des festivals sur les sols, sur la biodiversité. Il y a plein d'outils qui existent pour mesurer l'impact des festivals sur les bilans carbone pour les émissions de gaz à effet de serre. On mesure chaque année les volumes de déchets qu'on produit, etc. Mais il n'y a pas d'outils pour mesurer l'impact d'un événement sur la biodiversité. Nous, quand on s'est fait questionner de manière assez violente, en effet, ce qu'on comprend très bien, hein, par des associations locales, on a voulu créer des outils, des moyens d'apporter des réponses qui soient objectives. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers des chercheurs, effectivement, donc des chercheurs associés au CESCO, donc le laboratoire de recherche du Muséum d'Histoire Naturelle. Et du coup, on a décidé de s'intéresser à notre impact, enfin notre incidence sur les oiseaux, sur les chauves-souris, sur les sols, enfin la microfaune qui compose les sols, donc les lombriques, les collemboles, voilà, tous les petits insectes qu'on voit plus ou moins, et sur la flore. Sachant que, je le rappelle, j'ai dit tout à l'heure, mais on est sur des terrains sportifs, donc les enjeux floristiques sont quand même relatifs sur ces terrains, en termes de diversité et d'abondance. Mais c'était intéressant de nous pencher aussi sur la question, parce que c'est quand même ce qu'on voit, en fait, le plus. Donc, c'est nous, les chercheurs, nous ont tout de suite dit déjà qu'il fallait travailler sur le temps long, qu'une étude sur un an, c'était intéressant, mais que ça allait forcément donner des résultats discutables, en tout cas pas scientifiquement robustes, puisqu'il peut y avoir plein d'autres paramètres, notamment météo, qui peuvent affecter la biodiversité. Donc, on a décidé de lancer cette étude pour 3 ans. On est en train de chercher des financements pour la poursuivre parce que c'est quand même très coûteux. C'est important quand même de le dire. C'est une étude qui vous a coûté pour la première année 25 000 euros. Donc, c'est une grosse partie de notre budget. Voilà, c'est un choix important du festival. Donc, sur les oiseaux, les chercheurs ont installé des nichoirs tests, donc une trentaine de nichoirs autour du festival pour pouvoir effectivement voir le succès de reproduction des oiseaux, donc sur la mésange, qui a été l'espèce témoin qui a été retenue, parce qu'elle en dit beaucoup sur la vie de l'espèce oiseau plus généralement. Et que c'est la plus abondante aussi, donc c'était forcément intéressant pour faire des statistiques, parce que une étude, c'est aussi ça. C'est une nichoir test, ce que cette étude sur les oiseaux a révélé, c'est que la reproduction des oiseaux, en tout cas sur cette année-là, donc l'année 2024, s'est faite bien avant le début du montage de notre festival. Donc quelque part, ça nous a rassurés, et ça a rassuré aussi nos parties prenantes, parce que du coup, je vous le dis, c'est une étude qu'on a publiée, à la fois sur les protocoles et sur les résultats. Donc voilà, on a vraiment décidé d'être très transparent et très, très ouvert là-dessus. Et sur les chauves-souris, du coup, on a installé des boîtiers d'enregistrement des ultrasons pour pouvoir en fait mesurer les variations potentielles de l'activité de chasse des chauves-souris pendant le festival. Donc avec des mesures qui ont été faites avant le montage, pendant le festival, pendant le démontage et après. Et ce que ces enregistrements ont révélé, c'est beaucoup, beaucoup de temps d'études pour ces enregistrements avec une plateforme qui s'appelle Vivikiro, etc. Mais après plusieurs mois d'analyse de ces données, les chercheurs nous ont indiqué qu'il n'y avait pas vraiment de variation de l'activité de chasse. Il y avait eu un petit décalage sur une soirée de l'activité de chasse qui s'est déroulée une heure plus tard que habituellement, hors festival, mais que c'était pas significatif du tout. C'est quand même important de dire qu'on a un festival urbain, pour le coup. Nous, on est dans un bois, le bois de Vincennes, qui est, je le disais, des terrains sportifs. C'est un bois qui est visité par, je ne sais plus, 10 millions de personnes par an, et dans lequel il y a des voies de circulation, des axes routiers. Donc, on est quand même sur une faune qui est habituée, qui s'est adaptée à l'activité humaine. Oui, c'est ça, on est au bois de Vincennes. Parce que la ville de Paris nous a demandé. Ouais, Et du coup, pour aller très très vite sur les protocoles, les deux autres protocoles, donc sur la flore, c'était des observations. Et il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le coup, pour voir que forcément il y a un impact, que l'herbe, les pelouses sportives avaient été dégradées. En plus, pour le coup, c'était une année pluvieuse pour nous. Pour autant, comme les orangutans le font, on resème ces terrains après le festival. Et ce que les scientifiques ont vu, c'est que le couvert végétal avait repris très rapidement après la semence. Et sur la microfaune des sols, pareil, le constat initial, c'était qu'il n'y avait pas une grande diversité et abondance de microfaune dans ces terrains sportifs. Néanmoins, il y a quand même une zone sur le festival qui a une zone de passage, donc c'est pas devant une scène ou quoi, mais qui est plus boisée que les terrains sportifs sur tout le reste du festival. Et là, pour le coup, il y avait plus d'abondance des colamboles notamment, et du coup, l'impact a été plus important forcément. Et donc, ça nous permet nous de voir où on peut s'améliorer et comment, notamment avec des protections de sol. Donc, c'est des grillages protection qui permettent de mieux préserver les sols et du coup leur biodiversité. Et juste pour préciser, on a pu faire pour répondre à ta question initiale. Là où ça a été une force, c'est pas vraiment pour nous, c'est plutôt pour le coup les chercheurs et la ville de Paris qu'on a aussi associé à l'étude, parce que on a fait des découvertes en fait aussi grâce à cette étude. Les chercheurs ont contacté une espèce donc le petit rhinolophe, une espèce de chauve-souris qui n'avait pas été contactée depuis des années dans le bois de Vincennes. Donc c'était instructif de ce point de vue-là. Et ce qui était aussi instructif, c'est que tous les nichoirs, les 30 nichoirs qu'on avait installés, ont tous été occupés ce qui est quand même très rare pour des nichoirs artificiels. En général, c'est plutôt la moitié qui est occupée. Et donc, ça a démontré qu'il y avait quand même un déficit d'habitat dans ce bois qui est jeune, finalement, le bois d'Ancène, qui a été planté plus de 200 ans. Et du coup, ça nous amène, avec la ville de Paris, à ouvrir une réflexion sur l'installation de, d'autres nichoirs dans le bois. Voilà, c'est quelque chose qu'on va étudier avec, avec les écologues.
Vincent, deux mots sur la biodiversité et les visites qui ont pu être organisées avec le Festival des Eurockéennes sur le Malsaucy. On a une petite photo qui montre ça.
Oui, mais c'est une autre dimension, en fait. Moi, je suis vraiment très envieux des études qu'a pu faire Will of Green sur la question de l'impact sur la biodiversité. On n'a pas un contexte qui est favorable. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à convaincre qu'on puisse aller sur ce terrain-là. Mais par contre, on en explore un autre qui me semble intéressant, qui se situe plus sur la relation que les festivaliers ont avec le vivant autour d'eux, même si... Ça s'inscrit dans une prise de conscience aussi d'un effondrement du vivant par ailleurs. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, essayer de réfléchir à améliorer cette expérience-là de nature, parce qu'elle existe avec les arbres, avec la pluie, avec l'eau à proximité, sur un site qui est quand même un décor naturel, mais... Qui pourrait jouer un rôle pour aller au-delà de la fonction de décor, vraiment un support pour une relation, renouveler une relation avec la nature, et puis s'appuyer sur cette expérience-là pour ce qu'on fait déjà, mais je pense qu'on pourrait l'amplifier pour motiver une implication en termes de comportement éco-citoyen, comme on dit. C'est-à-dire que par exemple, l'idée de ne pas jeter un mégot de cigarette par terre, on sait que le fait d'être sur un site naturel et d'avoir conscience de la présence de la microfaune, des oiseaux, etc., ça encourage à investir dans ce geste-là. Et donc, toute la dimension de la sensibilisation à la biodiversité, elle va au-delà de cette fonction-là de connaissance naturaliste, mais elle est aussi un levier pour pouvoir inscrire ces événements dans une logique durable par un embarquement comportemental, on va dire. Je pense que ces deux dimensions-là, elles seraient intéressantes à développer. Pour le moment, on bricole.
Mais c'est intéressant de voir comment on peut bricoler justement avec les équipes des festivals. Alors, Jean-Paul Roland, on a 10 minutes. Je vous laisse choisir si vous voulez réagir à ce qui a été dit ou si vous voulez nous parler de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Par exemple, je pense à la question de l'énergie et des projets que vous avez. Vous choisissez.
Mais comme il y a eu des bonnes paroles, j'aimerais mieux réagir. Voilà. Juste par rapport à ce que Éric Lacaza a dit, il faut savoir qu'en fait, c'est un projet, moi, que j'avais proposé à Valérie Perrin, qui était à Gantner, et donc j'avais dit, ce serait quand même pas mal que des artistes puissent venir avant, pendant ou après les Eurockéennes, et que ça puisse pourquoi pas les inspirer. Alors, on ne s'était jamais rencontrés, mais c'est certainement dû à la distance nécessaire que vous avez évoqué, mais en tout cas le travail j'ai pu le voir et j'avais beaucoup beaucoup apprécié sur plus généralement sur ce que vous dites sur finalement pourquoi ces festivals finalement ont lieu, pourquoi aujourd'hui encore. Deux choses, c'est une question que je me pose tout le temps, hein, réellement. Bon, à part me dire finalement dansons sous les bombes, ce qui est plutôt pas mal, on a évoqué le punk tout à l'heure, quand même quelque chose de philosophique que je respecte beaucoup. La deuxième chose, c'est peut-être de voir d'où les festivals viennent. Hein, et tu l'as rappelé, il n'y a quand même pas très longtemps, on pouvait voir dans les organisateurs de festivals, à peu près de mon âge, dans leur bureau ou dans leur champ, un poster de Woodstock avec deux personnes au milieu des déchets, et ils trouvaient ça cool. Ils trouvaient ça super cool. C'était wap. Peut-être qu'un jour, limite, j'arriverai à faire autant de déchets. Enfin, vous voyez, c'est presque. On vient quand même de cette affaire. Et de l'autre côté, on entend parler effectivement de sobriété, dans lequel, bien entendu, on s'inscrit, on travaille. Quelle forme de sobriété vend-on ? Quelle forme de sobriété propose-t-on quand on voit les méga tournées qui arrivent ? Et finalement, un public d'ailleurs jeune qui est encore beaucoup plus intéressé par les stades que par peut-être les petites scènes de découverte que l'on propose. Donc, cette espèce de gigantisme, finalement, que l'on propose et qui est une sorte d'attirance et d'attraction,
finalement, c'est comment nous, organisateurs, on arrive à faire comprendre à notre milieu de faire un petit peu de, de décroissance artistique. Et c'est ça, finalement, notre grand problème. Alors, il existe en ce moment des réflexions. Il y a des artistes, Massive Attack, Coldplay, qui tentent des choses, mais finalement, on va quand même pas très, très loin. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra tous rentrer dans un cercle vertueux. Je vous le dis franchement, et Wolverine sera certainement d'accord avec nous, si nous, on a des artistes qui viennent et qui nous disent que ça coûtera 100 000 ou 200 000 euros en technique, nous, on dira OK.
Ouais.
Voilà. En tout cas, merci pour le travail que vous avez pu faire.
Merci pour cette réaction, Julien. Bah, eu peut-être une réaction aussi à tout ce qui a été dit, parce que ça interroge pas mal de choses.
Peut-être une réaction à la même, à la prise de parole d'Éric également. Ce que tu as dit, moi, me semble absolument juste, mais dans un cas très particulier d'une forme de festival très spécifique qu'on a qualifié, nous, de grande machine ou des têtes d'affiche. Encore une fois, le monde festivalier est très divers. Et je crois que ce type de raisonnement ne peut pas s'appliquer à tous les événements. Tous les événements ne correspondent pas à au standard que tu as décrit. Et par ailleurs, ce standard-là est peut-être lui-même en train d'évoluer. Alors, soit par adhésion, on parlait tout à l'heure de valeurs, peut-être que les valeurs de la culture et les valeurs du milieu festivalier sont en train de changer, mais aussi par nécessité, évidemment, par nécessité face au changement climatique. Je rappelle également que dans l'enquête qu'on a faite, on s'est intéressé aussi à la disparition des festivals. Et il se trouve que les événements climatiques sur les dernières années sont l'une des causes principales d'annulation et indirectement de disparition de festivals. Donc, par cette nécessité-là, mais également tout simplement parce que le rapport du public au festival est aussi en train de changer. Ce que l'on observe notamment sur les festivals, c'est un dynamique de reterritorialisation des publics. L'idée selon laquelle les festivaliers viendraient très loin, attirés par des grosses affiches comme le Hellfest ou d'autres festivals, est aujourd'hui assez largement fausse. Et y compris pour un festival de grande envergure comme les Eurocaines de Belfort, et Jean-Paul le sait puisqu'on a travaillé sur les publics des Eurocaines l'année dernière, on constate que la part de publics locaux qui viennent du territoire de Belfort ou des départements adjacents, grandit d'année en année. Et cette reterritorialisation des publics est peut-être aussi une réponse, je ne sais pas si c'est une conséquence, mais c'est aussi une réponse à ces enjeux de transition écologique.
C'est parfait, parce que ça nous fera le lien avec ce dont on discutera tout à l'heure après le déjeuner. On parlera justement de territorialisation. Puisque j'ai redonné la parole à tout le monde, peut-être, Éric, vous voulez un petit mot de la fin? Alors, de la fin, avant de passer à l'échange avec le public, en fait. Juste, vous avez réussi à faire parler de décroissance, Jean-Paul Roland. Ouais, je suis très contente.
Je pensais pas.
C'est difficile, en fait. En fait, c'est notre rapport aujourd'hui à la question du festival et des festivités et de la fête, en fait, qui est en jeu, je pense, dans ces questions-là. Enfin, moi, qui m'interroge, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on en a encore les moyens aujourd'hui? Jusqu'où on peut aller sans que cette fête devienne simplement une bulle dans notre société, c'est-à-dire un monde à part, comme un parc d'attractions, quoi. Enfin, mais c'est un peu ça que je comprends, que j'ai du mal encore aujourd'hui à comprendre, cette idée de la fête éternelle, mais qui n'est pas éternelle, puisqu'on sait que ça dure que 4 jours, et qu'il faut souvent des alternatives, là, par contre, des boissons, des drogues, pour prolonger cette fête, et pour en faire quelque chose de différent. Enfin, peut-être là, je vais un peu loin, mais en tout cas, il y a cette question-là, comment faire que ce qui se passe pendant ces festivals qui pourrait être important, qui est important, puisqu'il y a des idées, il y a un partage qui se fait, comment ça peut être autre chose dans la société aujourd'hui qui fasse qu'on ne se dise pas « j'ai passé 4 jours de rêve », non, j'aimerais passer 365 jours d'autre chose dans ma société, quoi. C'est ça, après. Que ça soit pas qu'une bulle. Et c'est dommage, quoi.
Je trouve que c'est très bien pour finir ce premier tour d'échange. Je vous propose maintenant de prendre la parole. Alors, donc, allez-y. Les questions sont ouvertes. On se donne, on a une quinzaine de minutes avant d'aller manger. Ça va aller. S'il y en a d'autres, allez-y. C'est l'idée. Donc, Christian Proust, fondateur des Eurokéennes.
Moi, je voudrais prolonger la réponse que Jean-Paul a commencé à apporter à la question de l'artiste, que j'ai trouvé très, très intéressante. Je veux dire trois choses. Au départ, les Eurokéennes ont été aussi faites pour montrer qu'il était possible de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, dans un territoire, on peut dire urbain, mais enfin, c'est quand même très rural en même temps. Il y a 100 villages dans le territoire de Belfort. Donc, c'est un tout petit département. L'idée qu'on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire ensemble, quoi, dans un territoire très, disons, moyennement social, enfin, pas extraordinaire du tout, en fait. Et ça, c'était un élément qui a été construit sur l'idée que c'est les jeunes qui pourraient montrer ça. Et par rapport à la société, aux problèmes qui se posent, et aux politiques, faire confiance aux jeunes et montrer à la société la puissance que peuvent avoir les jeunes de transformation, je pense que ce sont des choses tout à fait importantes et qui vont au-delà de la question de l'événement. La deuxième chose, Jean-Paul a commencé à le dire, mais au cœur même du choix, avec un site unique, un paiement unique de l'entrée et la possibilité de découvrir 12, 15 groupes différents, de niveaux très, très différents, des gens qui débutent, des gens qui sont en moyenne carrière. Enfin, c'est l'idée que c'est de vaincre cette idée que le gagnant prend tout. C'est-à-dire, les festivals dont Jean-Paul a parlé, ces grosses machines, sont construites sur la base d'un groupe qui écrase l'ensemble de la concurrence. Il y a une expérience de la biodiversité culturelle et dans un monde qui a besoin de résister aux grands impérialismes qu'on fait. Quelque part, je vais suivre Étienne Mingou, il y a une espèce de créolisation, une tentative de montrer la diversité des cultures musicales possibles. Je pense que c'est un élément tout à fait fondamental dans l'identité du festival. Et le troisième élément que je voulais souligner, c'est que dès le départ, il y a eu l'idée de 3-4 jours, c'est-à-dire il y a le camping, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça peut être l'outil d'une conscientisation, enfin d'un travail sur le fond, parce qu'il y a 10-12 heures de festival, mais il y a 10-12 heures en dehors du festival, et le camping, où il y a plus de 10 000 personnes qui sont là, peuvent être un outil. Alors ça demande beaucoup de travail, il y a eu des choses qui se sont développées, ça reste encore à faire. Au départ, mon intention était d'avoir des arts très divers, c'est-à-dire en fait de faire le festival d'Avignon des jeunes, en fait. Hein. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'art plastique, de créations très diverses qu'on fait. Mais on a encore le temps, on a encore une bonne trentaine d'années devant nous pour y arriver. Quoi.
Alors, je vais peut-être prendre 2-3 questions, comme ça vous pourrez réagir globalement.
Moi, j'avais une question sur le projet de recherche présenté par Julien Audemars. Je voulais savoir s'il ne s'agissait que de festivals de musique ou si ça concernait d'autres champs artistiques, par exemple des festivals de land art, d'art in situ, ce genre de choses.
Tu pourras répondre après, parce que Boris, après toi, comme ça, je fais réagir tout le monde.
À mon âge. Non, c'était plus une petite réaction vis-à-vis d'Eric. Alors, sachant que je ne suis plus du tout spectateur de ce genre de festival, justement, j'aime beaucoup plus les petites formes. Néanmoins, je me souviens de l'époque où je participais aux Eurokéennes en tant que spectateur. Je me suis aussi fait pas mal de copains sur place et ça a permis de faire réseau par la suite. Et ce sont des gens que j'ai retrouvés en vacances, avec lesquels on a pu faire d'autres choses. Et finalement, en y réfléchissant à peine, c'est ce qui se passe encore. Aujourd'hui, par exemple, on est dans un autre cadre, mais néanmoins, c'est le genre d'endroit où on va trouver des affinités avec lesquelles on va pouvoir faire réseau.
Une dernière question, Luc, et après, je repasse là-bas.
C'est une question de méthodo. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans la présentation de Dédale, mais il est évident que quand on parle d'alternatives culturelles et créatives, il y a aussi une réflexion sur la manière de faire de la recherche autrement. Et alors, c'est une question aux gens qui gèrent du festival, notamment, mais des concerts en général. Nous, chercheurs, on est... généralement entravé dans la rencontre avec l'artiste. Et je me demande à quel moment, un jour, on pourra arriver à l'entrée d'un festival en disant, voilà, on a besoin de rencontrer l'artiste et comment on franchira les cordons. Je dis ça parce que l'objet d'Icard, c'est quand même, c'est centré sur la rencontre. C'est-à-dire, la construction d'un langage commun, une manière de s'apprivoiser. Et les dispositifs sont à peu près à l'opposé de ça. C'est-à-dire que, bon, un chercheur qui veut rencontrer un artiste, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc, c'est une question de méthodologie. Nous, on se dit souvent qu'un jour, on va demander, enfin, on va. Un horizon, c'est peut-être de créer une carte de chercheur comme il y a une carte de presse pour accéder. Mais c'est un vrai, vrai, vrai problème. Voilà.
À quand une carte de chercheur sur les fesses ? Alors, bon, j'ai Armel. Donc, une dernière remarque.
Oui, j'ai une question sur. Enfin, plutôt un constat sur le fait que chacun des événements. Enfin. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser les événements culturels comme un partenariat avec un territoire d'êtres vivants et que, parce que j'ai le sentiment, je suis artiste, je travaille en milieu rural, j'ai le sentiment que dès que les gens se sentent appartenir à un territoire, ils en prennent soin. Et quand vous parliez que vous aviez de plus en plus de gens locaux, je m'en réjouis. J'ai l'impression que c'est une vraie clé pour développer, un partenariat avec un territoire pour que ça ne soit pas seulement un événement musical, fédérateur, où on se fait des amis, on se fait des amis humains, mais on se fait aussi des amis de territoire, arbres, forêts. Ce rapport à la territorialité me paraît important et je voulais savoir votre avis là-dessus.
Je vais encore être la personne très pénible qui va vous demander de répondre de façon brève, mais... Après, on a le temps de manger, vous pourrez discuter entre vous, il faut dire ça. Eh bien, Julien, je vais peut-être te donner le micro en tout premier, mais on le fera plus tard.
Très, très rapidement, je vais être court. C'est jamais bon signe quand on dit ça. Donc, l'enquête porte sur l'ensemble des disciplines artistiques du milieu festivalier, donc cinéma, musique, musique actuelle, différents types de musique, art visuel, art de la rue, etc., théâtre. Pour votre, la dernière réaction, c'est absolument... intéressant ce que vous dites, hein. C'est tout à fait ce qu'on observe, hein. Ces liens avec le territoire. Et d'ailleurs, pour les festivals, ce dont on se rend compte, quand on interroge les motivations des publics des festivals, quand on s'intéresse en particulier à ceux qui reviennent souvent dans le même festival, les fidèles, eh bien on s'aperçoit que le rapport au site, le rapport au lieu, le rapport au territoire devient une motivation fondamentale de leur sortie, de leur pratique culturelle. Et ça, c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire.
Oui, tout à fait d'accord avec vous, hein, sur la territorialisation finalement de ça. Et elle fait écho aussi à un peu ce que vous disiez sur la durée du festival. Le festival des Eurockéennes ne dure pas 4 jours. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui y travaillent déjà pendant un mois. C'est-à-dire, il y a une équipe qui travaille à l'année. Moi, j'y pense à peu près tout le temps, même quand je siffle sous la douche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est réellement ancré. C'est ça la réussite, finalement, du territoire. Ce n'est pas forcément d'avoir fait venir Daft Punk ou David Bowie. Je les glisse quand même, parce que je suis content. Mais, ou Metallica. Mais c'est aussi, finalement, le fait que, bah, voilà, hier soir, on était avec une centaine de mécènes qui sont vraiment du territoire. La semaine prochaine, on sera dans un ADAPI parce qu'on on projette une visite du festival. On va être dans la maison d'arrêt avec un concert de hip-hop. On est en train de travailler pour voir si on peut faire une rencontre dans un EHPAD. Bon, enfin, concrètement, on se gausse peut-être un peu, en tout cas on se targue, d'être des animateurs ou des acteurs culturels à l'année. Et je pense que c'est la même chose pour Wheel of Green. Donc, le moment des 4 jours, moi je pense qu'il doit rester une durée courte. Parce que c'est parce que c'est une durée courte que les sociologues nous ont dit que les gens allaient vers les autres et arriver à devenir copain, copine, voire époux, épouse, parce que j'ai quelques exemples aussi là-dessus. Mais c'est parce que c'est court qu'effectivement, tu me le disais, c'est sacré. Il ne faut pas que ça dure tout le temps, quoi. Cette notion, en tout cas, d'être dans un événement qui a un début et une fin, mais dont finalement, on le prépare très longtemps à l'avance, on en a beaucoup de souvenirs, soit mauvais, soit pas bien, j'espère bien sûr que ça soit les meilleurs, mais tout le monde a un souvenir finalement des Eurockéennes, et ça dure assez longtemps. Donc pour moi, le temps des Eurockéennes, dans son territoire, il est à la fois long et il est très présent. L'accès des chercheurs, ils sont interdits, les chercheurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, nous, on a toujours essayé d'avoir porte ouverte à peu près à tout le monde, que ce soit des artistes, j'allais dire, des artistes qui ne sont pas forcément musicaux, les chercheurs tels que vous avez pu le faire là, pendant 4 ans. Nous,
Maintenant, dès qu'on doit demander quelque chose à un artiste, vous savez, les droits artistiques, l'accès à l'artiste, notamment ceux qui ont une grande notoriété, c'est-à-dire la pelouse d'or, c'est géré par des agents qui sont en même temps plutôt maintenant des avocats, etc. Donc, nous, on peut bien ouvrir la porte, quoi. Après, on peut filer le contact. Mais après, effectivement, c'est la question. Mais je me rends compte, par exemple, pour donner juste un petit exemple de chercheurs autour de la médecine des arts, par exemple, qui ont commencé à travailler avec nous, bah, ils ont réussi finalement maintenant à avoir des liens quand même assez réguliers avec certains artistes qu'ils ne pensaient pas avoir. Donc j'ai envie de dire c'est possible, hein, vraiment. Alors que ça passe par nous on serait tout à fait OK pour faire les go-betweens ou pouvoir ouvrir la porte. Mais moi j'ai fait beaucoup de panels, hein, autour du droit de l'accession à l'artiste, qu'elle soit à l'image et tout ça. Et on voit bien que maintenant, tout est resserré de façon économique autour d'un artiste et de ses droits et de tout ce qui... voilà. Et donc, c'est même très difficile. Hein.
Je voulais réagir sur la dimension un peu utopique de l'événement, c'est-à-dire ce qui est possible dans le cadre d'un grand rassemblement de jeunesse et qui ne serait pas possible dans un autre cas de figure. Ça, je peux témoigner que c'est une réalité. C'est-à-dire que la rapidité de mise en œuvre de changements sur le plan environnemental, qu'on constate sur le festival, elle n'est même pas imaginable à l'échelle d'une ville. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre des choses parce qu'il y a justement ce caractère aussi festif. On est prêt à relever des défis collectivement et de confiance de convivialité. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Qui existe dans un festival, peut-être parce qu'il est à durée limitée, peut-être parce qu'il y a cette notion de fête et puis de bulle et de monde à part, qui rend des expériences possibles. Après, toute ta question, c'est de savoir comment est-ce que ça s'inscrit dans la durée et s'est transposé dans la vie quotidienne après. Mais elle existe, ça c'est certain. Après, sur la dimension de territorialisation et puis de la relation qu'on peut renforcer avec le vivant en général, ça c'est des choses qu'on travaille, qu'on aimerait bien travailler plus. Le principal frein, c'est la sécurisation, la tendance à tout avoir à contrôler sur un festival, y compris dans la relation aux éléments naturels. C'est-à-dire on va couper les branches basses des arbres, on va même couper par anticipation des arbres qui vont peut-être avoir un risque de chute, on va interdire l'accès à l'eau, on va canaliser le flux des festivaliers. Et donc le contact vraiment avec le vivant, il est très très... Sur le site même du festival, on n'est plus dans les années roots du début où il y avait ces interactions-là qui n'étaient pas prévues, mais je sais pas. Mais oui, voilà, ça s'artificialise un petit peu, ça se sécurise un petit peu.
Par rapport à votre intervention, j'avais aussi envie de rebondir parce que je me pose aussi la question de quel serait l'événement de la bonne taille, en fait. Enfin, je comprends que 35 000 personnes par jour, 40 000 personnes par jour, ce soit impressionnant et énorme, et que 1000 personnes par jour, c'est beaucoup moins, et donc l'impact est beaucoup moindre. Mais quel est le bon événement, quelle est la bonne taille? C'est une vraie question et je pense que la bonne réponse, c'est encore une fois cette balance qu'on arrive à trouver entre l'impact environnemental, écologique qu'on peut avoir et sa maîtrise, et l'impact social qu'on peut avoir aussi en face en termes de rencontres, de mixité, parce que je suis totalement alignée, les festivals, c'est un lieu de mixité, comme il en existe très peu, de moins en moins, vraiment. Et je trouve vraiment qu'il y a besoin de ces endroits-là quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, l'impact aussi en termes de changement de pratique, encore une fois, qui est, et on mesure nous aussi d'année en année, on voit des pratiques s'améliorer. On a des bénévoles qui sont là sur place pour expliquer les gestes de tri à des personnes qui, la plupart des gens ne savent pas au quotidien où placer leurs déchets parce que les règles changent tout le temps et c'est compliqué. Donc, il y a peu d'endroits où on nous prend par la main, on nous dit, il faut faire comme ça, ça, tu vas consommer tels et tels aliments qui ont été sourcés, etc., et qui, du coup, sont moins impactants que ce que tu peux manger au quotidien. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment cette notion d'équilibre. Je ne dis pas qu'un festival de 40 personnes est mieux qu'un festival plus petit, ou qu'un concert, ou qu'un spectacle dans un chapiteau comme celui-ci. Voilà, tant qu'en face, on essaie de créer un impact positif aussi sur les mentalités et les consciences, je pense que c'est vraiment ça notre responsabilité. En fait.
Eh bien, on en reste là pour cette première table ronde. Merci vraiment à toutes et tous.